Vous écoutez
RMC.
Le monde à venir.
RMC, Estelle Midi.
Oui, alors
c'est pas du tout rien à voir avec le classement des
musiques. Le parler des boîtes de nuit, c'est osé. C'est-à-dire qu'on est en train de parler à que des gens qui ont plus d'un certain âge. On aurait pu mettre une musique un peu plus
on a l'âge de César Père.
Oui. Bon, alors en tout cas, pourquoi est-ce qu'on met Thierry Hazard? C'est parce qu'on va parler des boîtes de nuit et de cette décision qui fait polémique dans la ville de Metz, c'est celle du maire François Grosdidier qui souhaite interdire les boîtes de nuit en centre-ville à cause des nuisances qu'elles génèrent. François Grosdidier, qui était l'invité de Charles Magnin ce matin, écoutez. Bon, eh ben écoutez, on va pas l'écouter, mais en gros, il n'était pas content.
Non. Et je peux te dire, le maire de Metz n'est pas content du tout, en effet, en raison des nuisances, tu l'as dit, provoquées par les boîtes de nuit en centre-ville. Enfin, les nuisances, on les connaît, c'est le bruit, c'est le tapage nocturne, les incivilités, les bagarres, mais aussi la pollution, enfin, les détritus laissés à terre, etc. Et cette décision du maire, en tout cas, cette annonce faite par le maire, d'une possible fermeture des boîtes de nuit en centre-ville, il n'en veut plus. Eh bien, ça n'a pas manqué de faire réagir l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont dépendent les discothèques, qui dénonce les propos du maire de Metz. Selon le président de l'UMI Nuit, tenter de fermer ces établissements ne réglera pas les problématiques liées à la sécurité, mais ne fera que les amplifier. Il évoque des propos irrespectueux pour les 22 000 salariés et 10 000 agents de sécurité de ces établissements. Des propos irresponsable également envers la jeunesse. La gestion de la nuit par des professionnels étant, selon lui, un atout pour la société française en matière de prévention, de sécurité et de santé publique.
Les boîtes de nuit ?
Oui, parce qu'il dit que s'il n'y a pas les boîtes de nuit, bah, les jeunes continueront à boire, à faire la fête, mais d'une manière totalement incontrôlée dans les rues. Tandis que là, c'est encadré. D'accord. Des propos, c'est ce qu'il dit. Des propos archaïques aussi pour l'UMI, alors que les ventes d'alcool dans les établissements de nuit représentent 8% du total de l'alcool vendu en France. Ce qui, selon lui, rend absurde le fait de pointer du doigt les discothèques pour ces débordements. D'autant, et ça c'est vrai, que le secteur va mal. La mise à l'arrêt total des discothèques durant la crise Covid en a fait l'un des secteurs les plus sinistrés, selon la profession. Un quart des boîtes de nuit sont menacées aujourd'hui de disparaître. Et s'il existe environ 1600 discothèques de nuit aujourd'hui en France, il y en avait 4000 dans les années 80.
Ah oui, donc ça fait une énorme baisse, évidemment. Faut-il interdire les boîtes de nuit en centre-ville, Pierre-Égor Magnan?
Alors moi, spontanément, non. Depuis la fin de mes études...
Vous êtes contre l'interdiction en général.
Alors d'abord, parce que je suis convaincu que ça ne marche pas. Après, non, mais ça doit s'organiser. C'est-à-dire que effectivement, si vous mettez des boîtes de nuit au milieu de quartiers résidentiels ou pas loin d'un hôpital, c'est évidemment n'importe quoi. Il faut organiser les choses. Et là-dessus, il y a un ensemble de villes qui ont fait des choses très intéressantes. Moi, j'ai des souvenirs quand j'ai organisé des soirées en boîte de nuit quand j'étais étudiant.
Ah, vous avez fait ça?
Comment ça datait? Oui, j'ai fait ça.
Il y a très longtemps.
C'est sympa.
Pas si longtemps que ça, Thierry. Et donc, en fait, il y a certaines villes qui ont... Parce que le problème des boîtes de nuit, les boîtes de nuit font venir des jeunes, créent aussi de la vie. En plus, avant d'aller en boîte de nuit, on va en bas, on va manger au restaurant.
À 3h du matin, créer quoi comme vie?
Les gens ne sortent pas de chez, ne se réveillent pas à 22h30 pour rentrer en boîte à 23h. Ça crée de la vie dans les bars, ça crée de la vie dans les restaurants. Après, il faut organiser les choses et aménager la ville. C'est-à-dire qu'il faut mettre des boîtes de nuit dans des quartiers un peu définis. Derrière, on va faire évoluer l'habitat. C'est-à-dire qu'en fait, qui va habiter dans ces quartiers-là? Les gens qui vont aux boîtes de nuit, qui ne sont donc pas gênés. Derrière, ça permet.
Ces quartiers, vous faites très bien. Vous vendez du rêve.
Non, pas des ghettos.
Des ghettos de jeunes.
Mais pas du tout dans la ville d'Amiens. Ils ont fait ça. C'est pas des ghettos fermés avec des murs. C'est que dans les boîtes de nuit, on peut parler des rues de la soif.
Les gens vivent au sous-sol.
On peut parler des rues de la soif.
C'est terrible.
Ah si, la rue des Canettes à Paris, c'est génial.
Non, mais c'est terrible.
Lille ou Rennes pour les plus connus.
Oui, Lille justement. Alors,
Lille, tu la connais bien.
Non, mais je la connais très bien. Mais
celle de Paris, c'est très sympa.
Non, mais surtout que c'est la rue Masséna à Lille. Surtout, moi, j'étais étudiant à Lille dans les années 90. J'ai connu le quartier avant l'arrivée de cette multitude de cafés et de discothèques.
C'est très sympa.
Non, je peux te dire que le quartier avant, c'était un quartier résidentiel, assez bourgeois, mais tranquille. Les gens qui habitaient là à l'époque, aujourd'hui, ils sont tous partis.
Oui, parce qu'ils ont eu des enfants et ils sont partis. Et après,
Et du coup, qui habite là? Des jeunes, des étudiants, des usagers des boîtes de nuit, ce qui permet de gérer la sécurité et l'aspect sanitaire. Et par exemple, je vous dis que la ville d'Amiens, par exemple, j'ai cet exemple-là parce que moi qui suis normand, c'est pas très loin de chez moi. Parce qu'il y a un moment, sinon, on met toutes les boîtes à l'extérieur. D'abord, on va créer aussi des problèmes de sécurité en termes de route. On envoie tout le monde dehors. Vous savez, c'est l'éternel problème des jeunes. Les jeunes, on les veut parce qu'ils font de la vie, mais les jeunes, on les veut pas parce qu'ils font du bruit. Il y a un moment, il faut faire un choix.
Mais moi, j'ai une idée. Déjà, c'est parce que moi, je ne comprends pas pourquoi les boîtes de nuit sont ouvertes à partir d'une heure du matin. Alors que on ferait des boîtes. Qui va en boîte à 23h? Enfin, des gens de votre âge.
Ceux qui ouvrent la boîte qui organise les soirées.
Alors que vous feriez des boîtes de nuit pour gens qui ont plus de 40 ans à partir de 20h.
Ça s'appelle un dancing.
Vous les fermez à une heure.
Des dansants.
Ça existe.
Et en plus, les gens dépenseront parce qu'ils ont un pouvoir d'achat parce qu'ils ont 40 ans.
Oui, surtout
voilà.
Ça s'appelle le thé dansant.
Non, c'est pas un thé dansant.
Thé dansant, c'est 70 ans.
Vous pourriez faire des boîtes de nuit.
C'est 15 heures le samedi.
Des boîtes de nuit pour cadra.
Le problème, excusez-moi, il n'est pas la boîte de nuit, il est la gestion de l'arrivée et de la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui arrivent quelquefois se font refuser l'entrée parce qu'ils sont alcoolisés et donc ils font du bruit dans la rue. Et la sortie, une fois qu'ils s'en vont, ils sont quelquefois alcoolisés et ils font du bruit.
Tout le temps alcoolisés.
Donc en fait, c'est pas tellement.
Pas seulement. Non mais t'as eu la révolution tabac.
Je voudrais juste terminer parce que la réglementation, elle est extrêmement précise. Pas plus de 105 décibels dans les boîtes et surtout quand il y a des logements autour, il faut pas qu'il y ait plus de 3 décibels dans les logements qui sont autour des boîtes de nuit. Donc c'est extrêmement réglementé. Moi, je suis comme toi, j'ai pas envie d'avoir des villes musées où il y aurait que des gens qui viendraient dormir avec la paix. Simplement, il faut bien gérer l'arrivée et la sortie des gens qui vont en boîte de nuit.
Mais comment tu fais? Tu vas pas mettre des flics pour pas passer.
Non, mais il faut des vigiles, il faut des gens à l'extérieur qui gèrent l'après et l'avant boîte de nuit, et c'est pas toujours le cas. Et souvent, les patrons de boîte de nuit se défaussent en disant c'est pas nous, c'est dans la rue. Moi, j'ai habité dans une rue où il y avait un restaurant qui était un peu bruyant. Bon, de temps en temps, il y avait un petit peu de bruit, ça arrivait pas très souvent. Souvent le week-end, donc c'est pas non plus tous les jours. Ça se gère. Mais effectivement, il faut gérer l'avant et l'après.
Vigile,
et
ça se fait. Quand il y a un mec bourré qui a envie de se battre, il se bat avec lui, ça fait du bruit.
Bah, il appelle les flics à ce moment-là.
C'est pas une solution.
Ce que je trouve,
c'est qu'en fait, on a délocalisé un certain nombre de choses aux périphéries des villes, dont les centres commerciaux. Je vois pas pourquoi on délocaliserait pas aussi les boîtes de nuit.
Parce qu'après, comme il l'a dit très justement, il faut y aller, il faut en revenir, donc on prend sa voiture, et quand on a bu, on ne peut pas la prendre.
On avait eu un débat sur l'alcool à la sortie des boîtes de nuit sur ce même plateau, et un gérant de boîte de nuit avait dit très intelligemment, moi j'ai mis en place un système de navette, il y en a une qui part toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, je sais plus, voilà. Et ce système-là me paraît beaucoup plus malin que d'essayer de gérer une situation qui de fait est ingérable. Et je pense que le maire de Metz, s'il dit ça, c'est qu'il se base sur des faits répétés.
Il y a eu beaucoup d'incivilités, notamment des bagarres. En fait, c'est ça qui le gênait.
Lui, il en a 3 dans la même rue, donc c'est que ça doit pour les
riverains. Au moins, c'est concentré, on sait où on va.
Pour les riverains, ça doit être absolument invivable.
Alors justement, tiens, il y a Chloé qui nous appelle de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, et elle est riveraine d'une boîte de nuit. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Chloé.
Avec plaisir. Donc moi j'ai 38 ans, j'habite depuis un an en hypercentre et j'ai acheté en fait une boîte de nuit qui était fermée suite aux différents confinements et qui devait devenir des salles de séminaire.
Oui.
Et pas du tout. Et donc ça fait un an que j'ai emménagé et un an que je ne dors plus.
Mais à cause de quoi? À cause de la musique ou à cause des gens qui sortent et qui rentrent dans cette boîte?
Alors des basses, de la boîte de nuit, et aussi des gens qui ne respectent absolument pas les riverains et ce qui se passe dans la rue. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils se battent, ils crient, ils défèquent, ils vomissent, ils jettent des bouteilles, des verres, leurs ordures, des mégots, des cotillons, enfin tous les goodies qu'ils peuvent avoir en soirée. Et en plus d'être une rue qui est... C'est dommage parce que c'est en hypercentre, c'est joli, c'est voilà. Ça devient une rue sale. Et puis c'est surtout qu'ils font un tel bazar qu'on ne peut pas dormir. Je ne dors pas du mercredi au dimanche matin.
Mais Chloé, après c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais vous n'êtes pas allé voir le gérant de la boîte de nuit en lui expliquant, je veux dire, ce que vous vivez. Et j'imagine que vous n'êtes pas la seule à être incommodée par ces nuisances. Donc vous devez avoir des groupements de riverains et vous devriez quand même pouvoir réussir à avoir gain de cause et à obtenir, comme disait Thierry Moreau, que des vigiles fassent un peu la loi à la sortie de la boîte.
Alors on a fait appel à la mairie. Qui est allé rencontrer le gérant.
De Bourg-en-Bresse.
Oui, monsieur Debat. Et puis, il y a la mairie qui est allée rencontrer le gérant, et le gérant a dit, on fait tout ce qu'on peut, mais on est en gros plus responsable des gens une fois qu'ils ont quitté la boîte de nuit.
Ça veut dire
qu'ils font le ménage devant la porte d'entrée, mais à 2 mètres de chaque côté, c'est leur problème.
C'est ça qui est lamentable.
Et vous, évidemment, ça rappelle un peu le film Nous irons tous au paradis, quand ils achètent une maison au moment de la grève des aéroports, alors qu'il y a des amis qui passent au-dessus, et Chloé, la pauvre, elle a acheté une maison pendant
Chloé,
il n'y avait pas de boîte de nuit.
Chloé, elle a raison, le patron de la boîte de nuit ne peut pas s'exonérer du fait que ça se passe à plus de 2 mètres de la porte.
Concrètement, il fait comment?
C'est ingérable.
Les gens ne respectent pas la loi.
Chloé, est-ce que vous avez pensé à déménager à cause de ça?
Non, parce que j'aime mon appartement et j'espère qu'un jour, très sincèrement, que cette boîte de nuit fermera, non pas parce qu'elle aura, elle sera en liquidation judiciaire ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, mais qu'elle fermera et que ça deviendra un commerce de jour. Et que voilà, parce que c'est dommage quand même d'acheter, de se plaire à l'endroit où l'on est, mais d'être embêté toutes les nuits.
Vous avez pensé au seau d'eau, Chloé?
Je suis déjà descendue pour aller m'expliquer avec certaines personnes, ouais.
Et ça s'est passé comment?
Alors, il y a des gens qui s'excusent et qui s'en rendent tout simplement pas compte et qui quittent la rue. Il y a des gens un peu plus vindicatifs et là, la police intervient. Mais c'est quand même dommage d'appeler la police pour ce genre de problème alors qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent ailleurs, quoi.
Bah merci beaucoup en tout cas Chloé pour ce témoignage, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du bruit et des bagarres, mais il y a aussi la saleté effectivement. Oui, bien sûr. Vous sortez de chez vous, il y a des détritus, et c'est ce qu'elle dit, voilà, les gens vomissent, enfin c'est quand même c'est hyper sale. Et encore, quand vous avez un hall, enfin vous êtes dans un hall en immeuble, vous pouvez aussi trouver des gens qui vont se réfugier dans le hall, enfin c'est voilà, effectivement ça peut être un enfer pour les riverains. Thierry Fontaine est notre invité sur ce dossier, c'est le président de la branche nuit à l'UMI, principal syndicat de l'hôtellerie restauration, et vous êtes propriétaire également, Thierry, de deux discothèques et de deux restaurants à Lyon. Bonjour.
Tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que vous avez entendu le témoignage de Chloé. Et c'est vrai que voilà, sur le plateau, tout le monde est plutôt pour garder des discothèques en centre-ville. Mais ça peut être d'énormes nuisances pour les riverains.
Mais écoutez, moi j'entends Chloé, elle est adorable. Elle a acheté une boîte de nuit pendant le confinement. Son vendeur, forcément, il lui a pas dit oui, c'est une boîte de nuit, ça restera une boîte de nuit. Il a fait croire que c'est de venir des salles de séminaire. Bon, c'est plus facile à vendre. Tant pis, je veux dire. Mais on ne peut pas acheter. On a systématiquement en France ce genre de cas où les gens achètent au-dessus, en face, à côté d'une boîte de nuit, et ensuite se plaignent du fait qu'il y a une boîte de nuit autour. Enfin, on le sait, on se renseigne. Chloé, il ne fallait pas qu'elle fasse confiance à son vendeur. Il fallait qu'elle aille peut-être voir la boîte en disant est-ce que vraiment vous allez devenir une salle de séminaire.
Ouais, mais alors ce que vous dites, Thierry, c'est qu'en fait, c'est invivable de vivre à côté d'une boîte de nuit. C'est ce que vous venez de dire.
Non. Je répondais à Chloé sur un point précis.
D'accord.
Ensuite, il y a deux choses. C'est pas 105 décibels dans une boîte de nuit. Maintenant, c'est 102 décibels. Il y a en effet des études d'impact pour que il y a aucune nuisance chez les voisins. On n'a pas le droit à 3 dB d'émergence. C'est ridicule.
Au niveau de la musique.
Au niveau de la musique. Sur les incivilités. En effet, une boîte de nuit se doit de gérer sa clientèle. Et on le fait en général. C'est pas dans tous les quartiers non plus. Nous, à Lyon, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai plein d'exemples de villes où ça se passe très, très bien en France.
Oui.
Donc, faut pas généraliser et jeter l'opprobre parce qu'il y a 2-3 établissements qui fonctionnent pas très bien sur l'ensemble d'une profession. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des quartiers là où je vous parle. Je suis autour de moi, c'est une porcherie. Pourtant, il n'y a aucune discothèque à 600 mètres à la ronde.
Ça n'a rien à voir. Non, mais Thierry Fontaine, ça n'a rien à voir.
Il y a des coins où c'est sale.
Oui, bien sûr, mais le matin.
On trouverait toujours plus sale ailleurs.
Moi, je veux bien vous. Thierry Fontaine, je comprends vos arguments, mais après, vous n'allez pas me dire qu'aux alentours d'une discothèque, c'est propre le matin. Vous ne pouvez pas me dire non plus que les gens ne sortent pas. D'accord, mais enfin, c'est pas propre. Mais ce n'est pas nécessairement propre non plus.
On nettoie. Si quelqu'un vomit, en effet, on jette un seau d'eau. On a une notion du bien vivre ensemble qui est essentielle. Sur la gestion de la clientèle dehors, je vous rappelle qu'un agent de sécurité privé n'a pas le droit d'agir sur la voie publique.
Mais c'est un problème, c'est un problème pour les riverains, Thierry Fontaine. Moi, je comprends qu'il faille que vous gagniez votre vie avec les boîtes de nuit.
Non, mais nous n'avons pas le droit. C'est la loi qui nous interdit. C'est-à-dire que si demain, un de mes agents de sécurité se fait attraper dans la rue, c'est une amende et une fermeture administrative. Donc ça, il faut que il faut que les préfets autorisent les services de sécurité internes à la boîte de nuit à agir dans un périmètre défini. Et ça, j'invite les préfets à le faire.
En effet,
ça va aider les discothèques à régler les problèmes autour de l'établissement. Mais aujourd'hui, on les coince parce que s'ils interviennent, on leur dit vous êtes intervenu sur la voie publique, donc on vous ferme. Donc du coup, quand ils envoient en disant ils sont dans la rue, c'est plus notre problème, c'est la vérité. Il faut que les préfets aillent dans ce sens et qu'en effet, on travaille main dans la main à régler ces problématiques de nuisance quand il y en a, bien sûr. Je suis désolé, je finis juste mon propos.
Oui, allez-y.
J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il faut envoyer des boîtes de nuit extérieures, bien sûr. Et recréons des multiplexes comme il y a 30 ans.
le Métropolis,
le Macumba,
l'Acropole,
club des clubs.
Ah, voilà, mais c'est fini, ça c'était il y a 30 ans.
Ça c'est fini. J'y ai passé beaucoup de temps, vous savez.
Mais moi aussi.
C'est quoi le problème?
Aujourd'hui, ces boîtes
pourquoi ça fonctionne pas?
Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent rentrer avec des bottes doux, ils veulent rentrer en trottinette, ils veulent rentrer en taxi, ils veulent rentrer à pied. Un taxi, quand vous revenez d'une boîte extérieure, bah, ça vous coûte une centaine d'euros, alors que quand vous êtes en ville, ça coûte 20-25 euros. Donc, les jeunes, ils vont dans un bar.
Il faut mettre des navettes, c'est ça aussi, Thierry Fontaine. Il faut que les gens soient inventifs.
Pour les ramener où, à quelle heure?
Il y a plein de jeunes, chez eux.
L'accidentologie, elle est là. Et vous avez une notion de fonds de commerce.
Vous semblez dire, monsieur, que c'est une minorité qui ne fait pas attention, justement, et qui gère mal. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que président de ce syndicat, pour agir sur ces minorités qui ne respectent pas les gens dehors?
Alors déjà, on n'est pas un syndicat de mauvais élèves. Donc quelqu'un qui, de toute façon, ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que nous, on est là pour les aider, les accompagner. Quelqu'un qui veut ni aide ni accompagnement, au bout d'un moment, ben, on ne le défend plus. C'est-à-dire que moi, quand ils se retrouvent devant le préfet ou devant le maire pour des sanctions, ben, si en effet, nous-mêmes, professionnels, on se dit, ben non, le mec qui s'en fiche royalement, c'est le pognon avant tout, ben, on ne défend pas ça. On ne sera jamais un syndicat de mauvais élèves. Mais en effet, on est là pour accompagner, faire comprendre. Il y a une notion de fonds de commerce, quelqu'un qui a une propriété commerciale. D'un coup, on ne lui dit pas, ben tiens, tu perds ta propriété commerciale et tu pars ailleurs. Non. Si vraiment le maire de Metz est contre les boîtes de nuit en centre-ville, il ne faut pas les menacer de fermeture. Il faut leur dire, écoutez, moi, je vais vous racheter vos fonds de commerce. Oui, en effet. Oui. Et on va mettre d'autres activités à la place.
Alors, enfin, je ne crois pas que ce soit son souhait. Eh ben Rémi, vous avez plein de messages.
Oui, messages de témoignages, comme celui de... Est-ce que je retrouve le prénom? Voilà, Jérémy, qui nous écrit sur Direct Studio et qui défend les boîtes de nuit. Il nous dit bonjour à tous. Moi, j'ai été agent de sécurité pendant pas mal de temps en boîte de nuit. Je peux vous garantir qu'on devait faire taire les personnes alcoolisées dans toute la rue. Dire que les agents de sécurité, ils sont 10 000 en France à travailler dans les boîtes de nuit, dans le milieu des boîtes de nuit. Dire que les agents de sécurité s'en fiche du bruit dehors, c'est complètement faux.
Ils s'en fichent pas, ils peuvent rien faire. Malheureusement, c'est ça, c'est ce qu'expliquait aussi Thierry Fontaine. Julien est avec nous, il nous appelle de Clermont-Ferrand. Et Julien, il est DJ. Salut Julien.
Salut SN, salut tout le monde.
Julien, vous pourriez aller travailler en périphérie?
Non, du tout.
Ah bon? Vous travaillez en centre-ville?
On est en plein centre-ville, ouais. Alors, il y a des inconvénients, j'ai écouté, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Nous, les clients, nous disent on préfère consommer un verre de moins et rentrer chez nous en VTC. Va faire ça à l'extérieur.
Ça, c'est pour les grandes villes, parce qu'il n'y a pas les VTC partout non plus.
Oui, mais il n'y a pas que les VTC, il y a les Uber, il y a les... C'est beaucoup plus pratique. Les jeunes nous le disent. Nous, on est en centre-ville, on a du monde justement à cause de ça. On serait à l'extérieur, c'est pas sûr qu'on aurait autant de monde. Et après, en centre-ville, les établissements restent quand même beaucoup plus petits qu'en extérieur. Quoi.
Oui, c'est beaucoup plus petit, mais les gens font quand même du bruit.
Bah, les gens font du bruit. Si un portier à l'entrée, un agent de sécurité refuse une personne, c'est qu'il le sent pas. Si cette personne fait du bruit, il a bien une raison, du moins. C'est compliqué, quoi. Mais après, nous, on est en centre-ville, on est très bien en centre-ville, et j'espère qu'on restera le maximum de temps en centre-ville, quoi.
Et qu'est-ce qui vous gênerait dans le fait d'aller travailler en périphérie? Parce que ça pourrait être des boîtes. Là, vous dites, c'est plutôt un club qui est assez petit. C'est vrai que, en périphérie, on a tous le souvenir d'énormes clubs où il y avait des milliers et des milliers de personnes, un peu la David Guetta, quand il va mixer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être Ibiza en centre-ville. Vous, en tant que DJ, ça vous excite pas?
Non, du tout.
Ah bon, écoutez, très bien.
Moi, c'est différent. Je travaille, c'est la boîte de nuit de mes parents, donc on est dans un milieu familial. Nous, c'est une boîte de nuit familiale. Je me vois pas dans un gros truc, un gros complexe avec 50 personnes, avec 50 salariés. Moi, là, on est bien, on est 6 ou 7, on est très bien.
C'est cosy, quoi.
C'est une petite famille, on est cool, on a une bonne réputation. Moi, ça me fait pas kiffer un gros truc, quoi, avec 3000 personnes, quoi, non.
Ah d'accord, écoutez, c'est un choix, je veux dire.
Avec 200 personnes, moi, je suis bien où je suis. Oui, après, c'est un choix.
Merci, Julien qui est DJ à Clermont-Ferrand. Andy nous appelle de Paris, il est directeur de boîte de nuit. Salut, Andy.
Salut.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes basé où à Paris, Andy?
J'étais basé à côté du pont Alexandre III, sous le pont Alexandre III.
Ah oui, je vois, d'accord. Oui, okay. Voilà. Vous avez eu des problèmes de nuisance des riverains qui se sont plaints? Parce que là, il y a moins de riverains.
Il y a beaucoup de riverains, il y a les péniches. Il y a les péniches.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
On avait beaucoup de péniches. Et nous, on avait l'inverse, par exemple. C'est-à-dire que nous, on avait des gens qui nous téléphonaient pour nous dire qu'on faisait du bruit sur des jours de fermeture.
Oui, c'est embêtant. Donc, c'était pas vous, en fait. Exemple.
Voilà. Ou sinon, quand j'entends les débats, quand on dit c'est sale, oui, effectivement, c'est sale. Les quais de Seine sont sales. Mais nous, on a nos gars qui, à 6h du matin, vont tout balayer la rue parce qu'il y a des jokers. Et puis, on a sauvé des vies. Il y a des gens qui voulaient se suicider. Les agents de sécurité sont intervenus sur des gens aussi.
Oui, enfin, c'est pas non plus tous les jours, vous voyez ce que je veux bien que vous me disiez que vous sauvez des vies en tant que directeur de discothèque, mais c'est quand même pas l'essence même de votre métier. Il faut
avoir une boîte au bord de la Seine.
Oui, voilà, déjà, oui. Mais surtout aussi, il y a d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont positives. Il y avait beaucoup moins de cambriolages aussi aux alentours, par exemple.
Ah bon? Pourquoi?
Ah, oui, parce qu'il y a des agents de sécurité sur toute la longueur. Si vous connaissez les lieux,
comme personne ne peut dormir.
Quand on voit des trucs un peu chelous, on appelle la police. Et il faut savoir qu'à Paris, les établissements de nuit sont gérés par une entité de la police qui s'appelle les cabarets et tout.
Oui.
Et
on
n'a pas les autorisations sans jeu.
Et pourquoi c'était important pour vous d'être en centre-ville, finalement, Andy? Pourquoi pas en périphérie?
Mais parce que déjà, les gens qui sont en Paris centre restent à Paris centre. Les gens de banlieue viennent dans Paris, mais les gens de Paris ne vont pas à la banlieue. C'est pas vrai. Ça, c'est une.
Les gens le faisaient avant, hein.
Avant?
À Paris. Bah,
il y a toujours eu des établissements de Paris. Dans Paris.
À Paris. Oui, mais il y avait beaucoup de grands clubs en périphérie de Paris où il y avait des milliers de personnes.
Malheureusement, moi, vous entendez mon accent, je ne suis pas parisien.
Oui.
Les gens de Paris ne sortent qu'à Paris. Je peux vous citer 25 établissements de nuit dans Paris qui sont réputés et les gens ne vont qu'à Paris.
Et ce serait difficile de changer les mentalités. Merci Andy, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va remercier également Thierry Fontaine, notre invité sur ce débat. Ça va pas être facile de départager les pour et les contre. Rémi, interdire les boîtes de nuit en centre-ville, bonne ou mauvaise idée?
Non, il ne faut pas le faire, mais c'est très serré. 51%, comme tout à l'heure pour un autre sujet, mais 51% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux sont contre la fermeture des discothèques en centre-ville. C'est la marge d'erreur.
Ouais, mais et après, c'est vrai que si vous interdisez ce genre d'établissement, ça fait quand même effectivement des villes-musées. C'est ce qu'on craint aussi pour Paris, notamment. Donc, ce serait quand même dommage. Faut que jeunesse se passe. Donc, nous, on n'a plus l'âge, mais bon, écoutez. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été sur ce débat.